Et bien sûr, d'ici là, tenez bon.
Vous écoutez la voix sans Dieu ni maître.
Radio Libertaria, unde non aginta quatuor megahertz.
Ben oui, on va pas vous le dire toutes les semaines quand même. Radio Libertaire, de 20 balles pour soutenir la radio, la carte d'auditeur en vente au 145 rue Amelot, librairie du Monde Libertaire. Vous entrez avec un billet de 25 balles. Hein, vous avez intérêt à avoir un petit peu plus parce que vous serez tenté sûrement par des bouquins, des disques ou des choses qui traînent. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, nous sommes ensemble pour une heure et demie. Une heure et demie, c'est le temps que 61 mètres cubes de glace à la vanille, au chocolat et autres soit consommé en France, c'est le temps que 380 000 litres de bière soient débités et bu, ce qui représente 380 mètres cubes, j'ai mesuré, c'est l'amphithéâtre du lycée dans lequel il m'arrivait parfois de donner cours. Une heure et demie ensemble, c'est le temps que soit acheté en France 1,6 million de baguettes, ce qui représente 350 tonnes, dont vous saurez d'ailleurs par avance que 21 tonnes de pain sec seront finalement jetés et gaspillés. 90 minutes ou une heure et demie, c'est le temps que soit produit en votre nom, de manière directe, indirecte et surtout industrielle, 1,2 kg de CO2. Une heure et demie, c'est le temps que 15 tonnes de microfibres textiles, généralement d'origine pétrolière, soient créées dans le monde par l'industrie textile et soient dispersées dans les océans et dans l'air. Une heure et demie, c'est 90 minutes de prison pour Betty Lashgar au Maroc, emprisonnée pour atteinte à l'islam. Dessous de scène, nous sommes ensemble pour une heure et demie. On va commencer par quelques petits « je me souviens ». Je me souviens du dialogue avec la grand-mère d'Agnès quand j'ai voulu qu'elle m'indique la recette de ses gâteaux de Pâques. « Faut de la farine pour commencer. »« Combien ? »« Oh, ni trop peu, ni trop. » Et ensuite, tu rajoutes du sucre.
Combien? Bon, ben, ni trop, ni trop peu. Ah, donc il faut autant de sucre que de farine alors? Ben non, surtout pas. Ni trop, ni trop peu. Je me souviens que quand j'étais enfant, Word était le titre d'une chanson des Beatles ou d'un très vieux mensuel qui avait publié Bakounine aux États-Unis. Windows était le titre de l'album du premier groupe de Jean-Jacques Goldman. Grok était le nom d'un clown russe. Claude était le nom de la maîtresse de Dagobert dans le Club des Cinq. Instagram était une formule magique ratée. Si l'on pouvait entendre chat GPT, c'était par hasard et par concomitance dans une cour de récréation. Et TikTok était deux écureuils débiles. Je me souviens que Franck, mon beau-frère, natif de Berlin-Ouest, ah oui, ça date les choses de dire Berlin-Ouest, avait passé des journées à écouter France Info pour peaufiner sa connaissance du français grâce au bulletin et billets qu'il entendait plusieurs fois dans la journée. Je me souviens de Raphaël s'exclamant « Putain, c'est la nouvelle prof de physique qu'on va avoir, elle ! Mais j'ai failli la draguer devant le lycée ce matin quand elle est arrivée !» Je me souviens que l'âge et la maladie ayant fait remonter en surface toute sa méchanceté à la mère d'Hervé, chaque fois qu'elle croisait un pensionnaire de l'EHPAD, selon l'heure, elle l'insultait. Ou alors elle le regardait avec mépris, puis elle l'insultait, car elle avait oublié qu'elle l'avait déjà fait. Je me souviens que Gros Louis, pilier de bar et urologue de comptoir, m'avait prévenu. Tu vois ton service trois pièces là, ben, il a trois fonctions. Pisser, apporter du plaisir à tes partenaires ou juste à toi si t'es trop pressé, et enfin t'empêcher de t'asseoir confortablement. Je te laisse deviner quelle fonction tu vas perdre en premier et laquelle perdurera jusqu'au bout. Je me souviens qu'Ossine nous a expliqué. L'insulte crouille, ça vient de l'arabe crouya, qui signifie « mon frère ». Je me souviens que quand sa voiture arrivait en vue d'un feu tricolore encore vert, Guy ralentissait, car il savait que le feu allait finir par virer à l'orange et il ne voulait surtout pas prendre le risque de passer à l'orange. Je me souviens que Jean-Luc avait relu en une fois tous les albums de Tintin pour compter le nombre de fois où Dupont et Dupont se retrouvaient avec leur chapeau melon enfoncé sur le crâne jusqu'aux yeux, suite à un choc sur l'occiput. Je me souviens que 3 ans de suite, ma sœur a voulu assister à la messe de Noël dans le village où nous allions en vacances. « Mais le bon Dieu et le petit Jésus, on n'y croit pas !» je lui avais dit. « Ouais, mais Jean-Michel et Bruno, ils sont trop beaux !» qu'elle m'avait dit pour m'expliquer. Je me souviens que Stéphane avait réussi à me convaincre que les habitants du Petit Quevilly, près de Rouen, étaient les Petites Quevillaines. Et je me souviens aussi que je ne comprenais pas pourquoi il trouvait ça si amusant. Je me souviens qu'on était jaloux de Gus parce qu'il avait dans une vitrine dans sa chambre une maquette du LEM. Le LEM, vous savez, le véhicule dont on nous avait dit qu'il s'était posé sur la Lune. Moi, je n'avais pas vu à la télé. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on l'appelait Gus? C'était quand même pas Gustave, quand même.
Il est insouciant, ce n'est qu'un enfant. Il s'élance en courant, referme la main, la mouche est dedans. Il joue, il rit, la mouche est à lui, et il lui arrache les ailes, il est si petit. Toi, qui lis les journaux, qui as des idées, sais-tu regarder ces choses qui sont si naturelles qu'on oublie souvent? Elles sont cruelles. Dans le grand camion noir, les chevaux finis ont déjà compris. C'est vers les abattoirs que l'homme insouciant les mène ce soir. C'est son métier, il n'est pas méchant, mais il frappe, il crie en les poussant dans la nuit. Toi qui veux la justice et qu'elle se bâtisse dans tous les pays, ces choses qui sont si naturelles, vois-tu seulement combien c'est pareil. Le chômeur humilié et qu'on ne plaint pas tant qu'il peut manger. Le prisonnier perdu par des mots savants qu'il ne comprend plus. On a pitié, on en parle un peu, et ça nous rassure, on veut croire que ça va mieux. Ce cri d'enfant battu, on l'a entendu, mais on n'a rien dit. Ce vieux dans un couloir, sur de vieux journaux, qui a peur du noir, ils sont si près qu'on ne les voit pas. Et puis on s'en va pour pleurer au cinéma. C'est une même guerre, une même misère. On les voit partout, ces choses qui sont si naturelles qu'on oublie souvent qu'elles sont cruelles. Seul, il joue au jardin, il est insouciant, ce n'est qu'un enfant. Il s'élance en courant, referme la main, la mouche est dedans. Il joue, il rit, la mouche est à lui. Et il lui arrache les ailes, il est si petit.
Marie-Paul Bell, à l'époque des chansons coécrites par Michel Grisolia et Françoise Mallet-Joris. Marie-Paul Bell qui nous a quittés il y a maintenant 16 jours, si mes calculs sont bons. Et même si mes calculs sont mauvais, ça n'a pas une grande importance. Dessous de scène, on est quand même là. C'est les vacances d'après le planning, mais on est là, on est présent en direct dans le studio. Alors, on va préciser qui sont les excusés du jour, Ariel.
Michel, là, dernièrement, il m'a appelé. Il devait venir, mais il a des problèmes de marche. Il a mal aux jambes, donc il s'est excusé. Et Elsa et Joëlle, salut Radio Libertaire, ils sont en Italie. Encore, jusqu'au 24 août, voilà. Donc, ça approche. C'est-à-dire, ça fait peut-être presque deux semaines qu'ils sont partis. Donc, ils entament la dernière semaine et demie, si on peut dire, voilà. Et bon, sinon, je suis tout seul avec Nicolas, voilà. Alors, j'ai apporté Patrick Denis et Philippe Forcioli. Et je vais commencer par Patrick Denis. Et je vais lire deux textes. Voilà. Jeune fille dans Poligny. Elle va, rue de la Comédie, lycéenne aux longs cheveux roux, innocente et belle en son adolescence, rétive au regard appuyé des passants. Un sac de cuir frangé lui bat la hanche, gibecière de savoir. Elle va, le nez au vent, telle une odalisque incarnée. Elle balance doucement ses rêves en battant l'horloge de son fessier dans l'insouciance d'un devenir illimité. Elle siffle, en garçon impudique, la mélodie d'une scie éphémère. Elle arpente nonchalamment les rues de la banlieue de sa vie. Jolie promesse de femme. Le vent ébouriffe sa crinière de lionne qu'elle rejette d'un mouvement brusque de la tête jusqu'en bas de ses reins. Petite provinciale entêtée d'espoir, elle franchit en chautillant la grille béante d'un vieux lycée. Un professeur d'anglais entre deux âges fantasmera sur le blanc laiteux de ses petits seins fermes. Parmi la troupe acnéenne et stupide des potaches endormis. Ce soir, après avoir chipoté le repas pris à la table de parents désabusés, elle glissera doucement la chaleur de son corps dans le fourreau des draps de coton et s'endormira imperceptiblement, la main appesantie sur les pages d'un roman de hasard. campement. Les camps volants ont aligné leur caravane à la sortie de Poligny en lisière de bois. Deux enfants se disputent âprement un vélo dépenaillé sous le regard absent d'une maigre gitane à quelier fourchon sur le tronc d'un sapin mort. Un corgnon apeuré s'est levé dans le bassin de plastique d'une cuvette et jappe un petit cri plaintif. Une corde à linge est tendue entre deux roulottes où sèchent les draps du voyage comme les voiles d'un bateau en radoube. Un brasero révèle la timidité de sa braise sous le petit vent de printemps. Le chapeau d'un homme qui se rebringuette émerge de la sapinière. Une chèvre aux longs poils terreux s'acharne sur un quignon de pain dur. Un bohémien se penche sur les entrailles d'une grosse Mercedes, assisté par deux adolescents échevelés qui gèrent un jeu de clés sous la férule de chirurgiens de fortune. Un fauteuil de cuir usagé se prélasse sous la bâche fleurie d'un auvent. Quelque part, une flûte mozartienne s'échappe d'un transistor comme par enchantement. La matrone, amplement vêtue, gave d'essence l'appétit d'un groupe électrogène. Quatre hommes, en troupe picaresque, traversent la route courbée sous le poids des ajoncs. Quelques chaises squelettiques attendent leur rempaillage en vacances de cul. Une poupée de celluloïde au crâne brisé offre son Martine au ciel incertain. Patrick Denis.
Bordel le dodo, réuni fa sol la, jalousie tirée déjà. Deux doigts de Porto, sur coin de sofa, bâton dansant de là-bas. Loukouma gogo, Béisi Sinatra, fallait pas. Y'a pas de mal à ça, y'a pas de mal à ça, me répond la drôle de fille. C'est comme ça mon gars, ma culture à moi, sombre et rose et mentille. Tu prends ou tu laisses, me dit la princesse de ce caravansérail. C'est mon cinéma, ça te plaît ou pas? Si c'est non, faut que tu t'en ailles. Alchimie secrète, drôle de cigarette qui ne porte pas de nom. Robe désuète, mauve collerette pour une fleur de la passion. Décidé de là, déridé je crois, j'engage conversation. Lorsque j'aperçois le Kama Sutra posé sur le guéridon. Y'a pas de mal à ça, y'a pas de mal à ça, me répond la drôle de fille. Le plaisir mon gars, ça n'empêche pas de fonder une famille. Tu prends ou tu laisses, me dit la princesse de ce caravansérail. C'est mon cinéma, ça te plaît ou pas? Si c'est non, faut que tu t'en ailles. L'amour de nuits et de jours, c'est bien les fins de semaine. Lundi le cœur lourd, fini le velours, quand la vague nous ramène. Face au quotidien, occupé à rien, devant un calendrier. Le petit sous-fifre qu'a horreur des chiffres, soudain se prend à compter. Y'a pas de mal à ça, y'a pas de mal à ça, je pense à ma drôle de fille. Je tisse le temps comme un verre à soie, s'enroule dans sa coquille. Ce matin sans cesse, bonheur et détresse, je suis pas au boulot, je baille. Tournant de guerre lasse, la mine un peu grasse, d'un crayon qui lui se taille. Des mots en wagon sur la voie ferrée, chemin de fer du papier quadrillé. C'est comme ça que je m'en vais retrouver ma drôle de fille, ma drôle de fille, ma drôle de fille. Thank you.
Patrick Denis sur un album sorti en 87 sur le label Mergiture. Je me demande si finalement ce label Mergiture, c'était pas de l'autoproduction. On appelle autoproduction chez les artistes la faculté de se dire, plutôt que de m'acheter une belle voiture qui fait vroom vroom avec les sous que j'ai de côté, eh ben je vais les investir dans un disque pour faire connaître l'œuvre que je ponds. Dessous de scène, ah oui, j'ai oublié de préciser, de mon côté, j'ai apporté Coquelicot et autres mots que j'aime d'Anne Sylvestre, dont je vous avais déjà livré quelques extraits la semaine dernière, et nous aurons bien évidemment les cadeaux d'Evelyne et Jean-Marie. Mais Ariel, on continue ?
On continue avec aujourd'hui Philippe Forcioli. D'un coup, comme ça, c'est arrivé. Les fleurs m'ont dit « assez ». Assez des pieds dessus nos têtes, assez des voitures charrettes, les amoureux, les amoureuses, les enterrements, du coup comme ça c'est arrivé. Les fleurs n'ont plus poussé. C'est les marchands qui ont fait la gueule, parce que c'est les promeneurs, les paysans disaient « c'est encore un coup des saisons, il y a trop d'usines, il y a trop d'avions, il y a trop de saleté dans l'air ». Ça n'avait pas tort, mais pour ce qui est de cette affaire, c'est plutôt le coup d'en dessous. Ni les engrais, ni les pesticides, ni cette nécessité acide qu'on ingurgite à la bonne terre pour l'exploiter. Non, c'est que d'un coup comme ça, c'est arrivé. Les fleurs n'ont plus poussé. Des marguerites, des dahlias, les gueules de loup, les pétunias, les patatis, les patatas, toute la fine flore de la flore a laissé seule ce matin se lever l'aurore. Et pourquoi ? Je sais pas. Enfin, peut-être un gros coup de chagrin d'amour. Ces fleurs sont amoureuses du jour, c'est bien connu, et le jour se lève. De plus en plus gris, de plus en plus lourd. La terre est trop lourde, elle va craquer, on le sait bien. Mais la télé couleur, sur le petit écran magique, les fleurs en plastique, ça ressort bien. Et puis nos narines ne sentent plus grand-chose, si ce n'est toutefois le doux parfum des roses. Parce que la rose, voyez-vous, c'est la reine des fleurs. Eh bien, la reine et ses sujettes, fleurie, flora, floron, fleurette, d'un coup, comme ça, c'est arrivé. Les fleurs n'ont plus poussé. Faites pour la terre, nous faites pour la terre, et la terre plus rien du tout, du tout. Alors les hommes, adieu les femmes, le soleil, la lune, les étoiles, adieu le feu ardent du vent, adieu l'automne et le printemps, adieu les pieds, adieu les têtes, adieu la roue de voiture charrette, les amoureuses, les amoureux, les enterrements, les petits-enfants. Du coup, comme ça s'est arrivé, les fleurs ont décrété, ce n'est pas du badinage, grève illimitée, grève de paysage. Signé des fleurs. Écrit en été 1977.
Au cœur de la pomme a surgi la rose. De son sable antique, la fleur de sagesse fait briller la main qui sut deviner la beauté d'une âme. Brisant les frontières de regards intenses, dialogue au désert, le sourire des cœurs invite au silence. Ils se sont rejoints, ces deux univers, dans le vrai langage qui unit sans trêve les humains en marche. Ils se reverront, et l'automne clair d'un pays nanti, lui enfant promesse, dont le geste pur a dit la grandeur d'un peuple au futur. déjà millénaire.
Ben oui, il était normal que, à partir de Philippe Forcioli, je glisse vers cette rose des Chénines de Grégoire Collomb, interprétée ici par Philippe Forcioli précisément. Allez, j'ai cherché, tiens, dans le bouquin d'Anne Sylvestre, Coquelicot et autres mots que j'aime, je me demandais s'il y avait les roses. J'ai pas trouvé les roses, mais j'ai trouvé quand même les coquelicots pour commencer. C'est un cri, c'est un appel, c'est un mot de joues rouges et de courses folles dans les blés, de mollets piqués par des chardons, de roulades et de cul par-dessus tête dans le fossé. C'est un mot claquant, insolent, cueille-moi si tu l'oses, je me faderai aussitôt, mais regarde, je suis légion. Je pousse et je repousse dans cette flaque rouge, tu ne sais plus où poser les yeux. Coquelicot, cavalcade, concours à qui sera le plus rouge, tes joues ou moi. On en fait des poupées, on cueille une fleur, la tige bien longue, et puis après avoir rabattu et noué d'un brin d'herbe sa jupe de soie écarlate, on cassait un bout de la tige pour la piquer en travers du corselet, comme des bras maigres, petites danseuses, marionnettes fragiles qui ne duraient que le temps du plaisir. Il sera même capable de récupérer un cœur en détresse et de le remettre en état. Il a tout ce qu'il faut pour ça. Ça tiendra ce que ça tiendra. Qu'est-ce qu'on risque ? Ah non, pardonnez-moi, Coquelicot, c'était fini. J'ai enchaîné bêtement, j'ai tourné deux pages d'un coup. Si je tourne trois pages d'un coup, je me retrouve sur la définition par Anne Sylvestre du mot « marelle ». Jeu en forme d'avion qui permet d'aller de la terre jusqu'au ciel en sautant sur un pied. Traditionnellement réservé aux filles, car c'est bien connu. Les garçons ne sautent pas à cloche-pied. De même que les filles n'iraient jamais taper dans un ballon, voyons. Chacun son jeu, et les ânes seront bien gardés. Définition du Larousse. Grand-père avait un bureau dans sa grande maison. Je ne me souviens pas de l'avoir vu travailler dans son bureau. Je le revois plutôt s'extirpant de sous sa traction, les mains pleines de cambouis, heureux, la voix tonnante. Peut-être y avait un bureau juste parce qu'il fallait avoir un bureau. Les murs étaient lambrisés de bois sombre qui sentait fort et sur une étagère étaient alignés les volumes du grand dictionnaire Larousse. Au moins 10 volumes, peut-être 20. Ils étaient reliés lourdement en brun ou vert foncé. Et si l'on voulait en attraper un, il pesait des tonnes, mais il y avait tout là-dedans. Et je suis sûr que grand-père en savait le contenu par cœur. Oh, il avait une mémoire phénoménale. Il connaissait sur le bout des doigts toute l'histoire de France. Il nous posait des colles à mes frères et à moi. Si on passait avec lui dans une rue qui portait le nom d'un vieux mort, il savait tout sur lui. Il nous l'expliquait. Et si par malheur, on repassait dans cette rue, il fallait qu'on s'en souvienne. Quelle misère. Le gros Larousse faisait mes délices. Je l'ai feuilleté, je découvrais des mots. Je n'ai pas spécialement regardé les planches anatomiques. C'est une légende, ça, que les enfants apprendraient la vie là-dedans. J'ai regardé un peu quand même. Je trouvais ça ennuyeux, ça manquait de mystère. J'ai préféré ornithorynque, phacochère, ampélopsis, psoriasis, duodénum, gargantuesque, nyctalope. Pour les gros mots, j'avais mes frères, mais j'usais d'un langage très châtié, même petite. Maman disait, comment cet enfant peut-elle parler aussi bien avec des frères aussi grossiers? Je riais sous cap, j'étais sournoise et je jurais en silence. Je les connaissais tous, les vilains mots. Que ne donnerais-je pas pour pouvoir débarquer encore dans le bureau de mon grand-père, ouvrir la porte sans frapper et lui lancer « Grand-père, tu ne vas pas le croire, je suis dans le petit Larousse. » Et grand-père répondrait « Le petit ?»
Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Qu'est-ce qu'elle a donc fait pour s'envoler à tire-d'aile? En poussant son cri pointu, hirondelle, où t'en vas-tu? En poussant son cri pointu, hirondelle, où t'en vas-tu? Hirondelle belle. En enfilant les aiguilles de bois, sans le sentir, me suis piqué le doigt. Sans le sentir, j'ai perdu mon enfance. Elle s'enfuit quand la peine commence. En enfilant les aiguilles de bois, oui, j'ai perdu mon enfance, je crois. Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Même si c'était vrai, fallait pas lui couper les ailes. Va tes petits sacs de blé, tu les auras bien payés. Va tes petits sacs de blé, tu les auras bien payés. Hirondelle belle. En enfilant les aiguilles de bois, j'avais un cœur, on me l'a mise en croix. On l'a cloué sur les portes des granges, et l'hirondelle en chouette se change. En enfilant les aiguilles de bois, voici mon cœur, tout le monde le voit. Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Moi, je me cachais, je jouais pas à la marelle. Elle en a le cœur tout froid, l'hirondelle au fond du bois. Elle en a le cœur tout froid, l'hirondelle au fond du bois. L'hirondelle belle. En enfilant les aiguilles de bois, ma peine marche aussi vite que moi. Quand j'ai couru, elle a suivi sereine. Quand je m'arrête, elle attend que je vienne. En enfilant les aiguilles de bois, que l'on enterre ma peine avec moi. Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Qu'est-ce qu'elle a donc fait pour que son cœur reste fidèle? Qu'on la laisse s'envoler, elle a bien assez pleuré. Qu'on la laisse s'envoler, elle a bien assez pleuré. L'hirondelle belle. En enfilant les aiguilles de bois, oh laissez-moi ce qui reste de moi.
Anne Sylvestre, bien évidemment. Et maintenant, ben, comme promis, pour passer bientôt à la deuxième partie de l'émission, une petite page blanche. Ah non, une page Evelyne.
Et puis, tais-toi. Alors je prenais au vol leurs paroles. Je fabriquais avec des papillons de nuit des avions en papier. Dans ma tête, ça tourbillonnait sans arrêt. Je faisais tourner le manège et à mon tour, je disais « Tais-toi ». J'étais un enfant mal réveillé. Ma mère avait trop rêvé avant ma naissance. Aussi, je suis le contraire d'un rêve. La désobéissance incarnée. C'est un arbre tout bosselé qui pousse dans la jungle. Il se nourrit peut-être bien des mauvaises pensées des hommes, mais aussi de leur bonhomie, car lorsqu'ils dorment, les hommes, ils n'ont pas l'air méchants. Avec toutes mes bosses sur l'écorce, je permets aux singes les moins agiles de grimper à la cime. Aujourd'hui, je déguste les mots, rêve de désobéissance. Je mange des cacahuètes sur ton sourire. Noyé de larmes. Voilà, c'était l'arbre de désobéissance.
Et ça, c'était donc le petit cadeau d'Evelyne. Dans une heure sur Radio Libertaire, ça sera Bulle Noire. Il me semble que dans Bulle Noire, ça sera du direct avec une invitée, Louise May et les Ogres. Elle s'appelle Chantal, Chantal Despierres, compléta Martin, et elle est la preuve vivante que tu peux avoir 52 ans, être dans la vie active, avoir accès à tout, pharmacie, internet, dépistage, et penser que c'est normal que ton mari t'impose des rapports sexuels. Bref, d'affiche en numéro spécial d'écoute nationale, elle tombe sur un collègue du 15e qui sait qu'on existe et que ça sert, et elle arrive chez nous. Ça, c'est un petit extrait pour préciser que le « Chez nous », c'est la brigade des crimes et délits sexuels au nord de Paris, où travaille Alex Dussault, l'héroïne de ce roman noir, plus qu'indispensable en ces temps où les femmes sont de plus en plus maltraitées, malgré les préventions médiatisées et les discours outragés, et leurs droits largement piétinés et bafoués. Voilà, ça c'est le résumé sur l'agenda de Radio Libertaire que vous pouvez consulter tous les jours même pour savoir ce qu'il y a sur notre antenne et dans l'immédiat sur notre antenne.
Et on continue avec un petit texte de Patrick Denis. Marthe a le regard doux des vieillards en attente. Le train des adieux n'est pas loin. Elle tricote sans illusion la laine de ses jours d'hiver. Les chevaux viennent en bout de course, elle le sait. Le temps qui lui reste passe comme la fleur d'oranger d'une tisane sous l'opulente chevelure de la glycine qui caresse le banc de bois. La ferme fait retraite dans le silence. Et la rouille macule de ses taches brunes le vieux garde-boue du tracteur. Les martinets la reconnaissent, qui viennent timidement picorer les reliefs de pain qu'elle fait glisser de la toile cirée dans la coquille de sa main. Au creux du vallon, l'index du clocher de l'église indique le chemin à suivre aux tombes du cimetière. Il est là-bas, dans son berceau de chêne, qui lui ouvre grand les bras de sa croix de pierre, l'Émile, son Émile à elle, qui patiente depuis 10 longues années déjà. La santé de Marthe est venue à bout d'une garde-robe à l'ancienne et d'un vieux médecin, comme une farce déplacée. Les jours ont défilé, impassibles, comme les grains du chapelet usé qu'elle remonte quotidiennement au lamis noir de ses doigts gourds. Sa crainte irraisonnée de la jeunesse la fait parler aux oiseaux. Elle invente d'impossibles contes pour une chatte indifférente. Elle se consume lentement, sans à-coups, comme la mèche charbonneuse d'une antique lampe à pétrole.
Sortie du bar. ou l'indifférent. Quand les temps se font difficiles, tu mens, tu mens, tu mens. T'es un colosse aux pieds d'argile. Tu veux, tu veux, tu veux être le plus beau, le plus fort. C'est tout seul que tu peux encore dire que tu t'aimes encore. La fille qui t'aimait s'efface comme dans un rêve, et la tendresse fait la grève. Tu ressembles à ton lit défait. Tu restes désormais seul à passer des nuits sans trêve, près du téléphone t'en crèves. Tu veilles sur un sourd muet, penché sur ton piano, quand tu taquines le clavier. Le la sonne un peu faux, sur ta vie il est accordé. Remets au diapason, et l'instrument et le pianiste. Baisse d'un demi-ton, tu seras toujours un artiste. Parle tout le temps, tu montes la gamme en arpège. Tu t'emballes comme un manège qui tourne à vide aux quatre vents.
Radio Libertaire 89,4 MHz. Tiens, faudrait compter combien de fois le mot Radio Libertaire a été prononcé sur cette antenne depuis sa création. Si je vous dis ça, c'est simplement parce qu'on en est à un paquet d'années maintenant et que les 40 ans, 45 ans de Radio Libertaire, 45 vont être fêtés à la salle Olympe de Gouges.
Bientôt, ce sera la fête.
Avec table ronde, projection de films, concerts divers et rencontres avec...
Ce sera dans l'onzième qu'il y aura la grande salle pour nous. Ils ont mis du temps, ils ont attendu les municipales pour vraiment dire que ça se passerait là-bas. Voilà. Alors, tout sera annoncé au fur et à mesure.
Ah, et précision aussi, la semaine prochaine, normalement c'est une émission théâtre proposée par Evelyne et Anne avec les théâtres des Gémeaux Parisiens qui apparemment a quelques difficultés, mais il est possible aussi qu'à cause de la phase de révision du matériel de Radio Libertaire, le samedi soit lui aussi banalisé, si j'ose dire, et transformé en programmation musicale.
Oui, c'est pas très, comme samedi prochain, c'est le 15, donc il n'y aura pas de... Je crois que même qu'il va y avoir de temps en temps une coupure d'antenne pour faire les travaux. Donc, et c'est Monique qui s'en charge, c'est ça.
Allez, Fortioli.
Un petit Fortioli, bien sûr. Alors, voilà. Je suis un aide. Un aide enchanté de vous aider, peut-être. Un aide enchanté de vous aider, qui sait. Je suis un poète et je prête mes clés, les clés du royaume caché au cœur des hommes, au milieu des déserts et des courants d'air. Pour les nuits sans jour, quand les jours s'ennuient. Je suis un aide, je suis ton aide. Il faudrait nous aider les uns les autres. Oh, vous m'aiderez comme vous. Je vous aide, voyez-vous. L'état d'aide a commencé pour moi à partir du moment où tous les gens vers qui je m'avançais m'ont répondu « Va te faire voir chez les Grecs !» Alors j'y ai été, et quand je suis arrivé, tous les Grecs m'ont dit « Salut la haine, salut la haine, salut la haine. Alors j'ai cherché dans mon dictionnaire franco-grec et j'ai lu. Haine vient du grec aoidos, qui voulait dire chanteur, poète grec de l'époque primitive, qui chantait ou récitait en s'accompagnant sur la lyre. Homère était un haine. Vous vous rendez compte? C'est formidable, hein, un dictionnaire. Ça aide, ça aide. Écrit en 1976.
Je ne sais plus si c'est ma joie, si c'est ma peine. Si dimanche commence ou finit la semaine, il est trop tard. On parle de l'amour et toujours sans savoir. Les mots s'envolent, il y a des baisers coulés dans les paroles. Des larmes sur la main, un grand ciel de printemps. Au fond du lendemain, un grand soleil, la nuit mon cœur qui bat trop fort et me réveille, les ailes des oiseaux sur la gorge du vent, tous ces matins perdus, ces haines à renaître. Et tous ceux qui ne voudront jamais me reconnaître. Je ne sais plus si c'est ma joie, si c'est ma peine. Si dimanche commence ou finit la semaine, il est trop tard. On parle de l'amour et toujours sans savoir. Les mots s'envolent, il y a des baisers coulés dans les paroles. Des larmes sur la main, un grand ciel de printemps au fond du lendemain. Un grand soleil, la nuit mon cœur qui bat trop fort. Et me réveille, les ailes des oiseaux sur la gorge du vent. Tous ces matins perdus, ces haines à renaître. Et tous ceux qui ne voudront jamais me reconnaître.
Philippe Forcioli interprétant précisément René Guicadou sur un album qu'il avait de lui-même intitulé Poète. Allez, on va retourner en compagnie d'Anne Sylvestre avec quelques-uns des mots qu'elle aime bien, comme le mot coquelicot. C'est un bouquin paru en collection Point, dans une collection dirigée par Monsieur Delerme. Arachnéenne. Bon, non, je n'aime pas tellement les araignées. Je ne les déteste pas non plus, je n'en ai pas une phobie au point de pousser des cris perçants me suspendant au rideau. Elles ne m'attirent pas, c'est tout. Je pourrais, le cas échéant, leur reprocher de dénoncer par leur présence mes piètres qualités ménagères. Mais, n'ayant pas eu à me battre contre elles, je ne suis pas une adepte de la tête de loup. Tout au plus, je leur ferai grief d'un manque d'imagination créatrice dans le choix des motifs de leur toile. Bien sûr, si on est du parti des mouches, on aura d'autres raisons de s'en plaindre. Mais je ne voulais pas parler d'araignées. Parfois, un mot en entraîne un autre. Il fallait prendre ce chemin et si on ne le décale un peu, si on l'oriente différemment, on découvre des merveilles inattendues.
araignée en grec, se disait arachnée, ce qui a donné pour mon bonheur arachnéenne, adjectif magnifique et mystérieux, qui nous plonge dans un univers de dentelle, dentelle au fuseau, au filet, dentelle au crochet ou à l'aiguille, mantilles ouvragées dont s'ornaient les têtes des femmes à la messe du matin, dentelle des jupons, des guimpes, des corsages de nos aïeuls fermés aux poignets par de minuscules boutons, avec col par un chaste lacet de velours. Les passionnés de dentelle, étrangement, s'approvisionnaient auprès des religieuses. Des ouvroirs des couvents sortaient des parures d'une sensualité folle, attendant leur incrustation sur des combinaisons, des déshabillés de crêpes de Chine, vert, nil ou saumon. Y pensiez-vous seulement, mes petites sœurs, en vous usant les yeux et les doigts sur vos ouvrages destinés à des pécheresses ? Comme de petites araignées, vous reproduisiez inlassablement le même motif entrelacé de « Je vous salue, Marie » pour éloigner le diable. Qui sait, peut-être avez-vous sauvé quelques âmes avec votre patience arachnéenne. Ampélopsis. Qui est la belle Ampélopsis, déesse égyptienne ? Courtisane ou princesse, souple et frémissante avec sa toison rousse, elle investit la maison, la circonscrit et la recouvre. Elle monte jusqu'au toit, masque les pierres imparfaites, elle occulterait jusqu'aux fenêtres si on la laissait faire. Elle pousse ses vrilles partout, vigne stérile, on la dit vierge et elle s'en moque. Au moindre vent, elle secoue sa tignasse et on vient de loin pour l'admirer. Elle flamboie, elle rutile, elle bruisse, triomphante, insoucieuse du méchant automne qui, dès les premières gelées, la laissera chauve et la maison, ingrate, désenchantée, ouvrira de grands yeux tristes, pleurant de toutes ses gouttières. J'ai admiré de ces maisons, ornées de la toison flamboyante de la belle Ampélopsis, joyaux que l'été transfigure. J'ai rêvé comme on rêve de maison, et sans jamais passer à l'acte, et si, même j'en avais émis le désir, les voix familières se seraient mises à grincer, des voix de briseurs de rêves. « C'est rempli de vermine, il y a des araignées, tu ne peux pas laisser les fenêtres ouvertes. Et d'ailleurs, les racines, ça abîme les pierres, c'est malsain. Puis en automne, faut ramasser les feuilles. Tu parles d'un entretien. » Et quand j'ai laissé mes pensées tourner autour d'une maison au bord de l'eau, près d'un lac ou d'un bras de rivière, une de ces maisons rêveuses, au bout de pied effleurant la surface, une barque attachée au piquet de la rive, dans l'ombre argentée des saules, on a l'impression de respirer de l'eau, les oiseaux de mauvais augure ont croassé, mais c'est humide, c'est rempli de moustiques, les boiseries sont moisies, et les tapisseries se décollent, et puis les enfants pourraient se noyer, et quel entretien. Belle Ampélopsis, et vous, fée des roseaux, évitez ces mortels qui, devant un château, ne voient que le nombre de fenêtres à astiquer et qui, de la beauté des choses, ne perçoivent qu'un envers qui les décevra toujours. Patarou, expression en grand patarou. Je suis passé voir la Jeanne. Elle attendait de la belle famille. Elle était en grand patarou. Je ne me suis pas attardé. Si déjà elle se préparait à se recevoir sa belle famille, il y avait motif. Hein. La belle famille, comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs, c'est la famille de l'autre côté. Ces étrangers qui vous ont volé votre fille adorée, non mais quelle bécasse, ou votre merveilleux fils, quel petit con celui-là. Ces gens qui ne font rien comme vous, tandis que vous, ben vous ne faites rien comme eux. Ah, vous mettez de la farine, vous. Chez nous, on n'en met pas. Il n'est pas un peu chaud, votre four, non? Ah, bon, nous, on le met sur quatre. Hein, mais bon, c'est vous qui voyez. Vous vous êtes regardé en chien de faïence pendant la noce. Mais ça commence à se tasser. Et puis, bah, l'héritier mettra tout le monde d'accord. Pourvu qu'il ait le nez d'un des côtés et la bouche de l'autre côté. Bref. la Jeanne, était en grand patarou. Depuis 3 jours, elle l'astiquait, lavait, frottait, et depuis ce matin à l'aube, elle courait partout, traçant des lignes, des cercles et des diagonales, rouges, essoufflées, caquetant et ébouriffant ses jupons comme une poule pondeuse. Elle avait réuni toute sa troupe, sorti du buffet la vaisselle de son mariage, les beaux verres de la tante Eugénie, les nappes brodées de sa grand-mère, les couverts étincelants. Elle avait mis les grands plats dans les petits, ponctionner la cave, dépeupler la basse-cour, décimer les salades, engueuler son mari, talocher ses enfants, égarer son portable, remporter haut la main la lutte pour obtenir la salle de bain et finir par accueillir la belle famille ponctuelle, cheveux laqués et sourire Reseda, pimpante dans son petit ensemble tout juste fini de repasser. « Oh, il ne fallait pas vous donner tout ce mal !» C'est rien, voyons. La Jeanne, en grand patarou.
Les mots, pardon si j'en mets trop et si c'est un fardeau pour vos oreilles. Les mots, chacun son petit pipeau, chacun son petit grelot qui leur réveille. Il faut bien détecter les faux, les juger par défaut, par défaillance. Credo, promesse de cadeau, sauvetage ou radeau de l'espérance. Sur mon chemin de mots, sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que j'en délire. Sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que je ne saurais dire. Les mots sont comme des oiseaux venus dans mes rameaux, dans mes bocages. Les mots ont planté des drapeaux sur tous mes chapiteaux, toutes mes cages. Tantôt je suis comme un chameau, je les mets sur mon dos, j'en suis avare. Tantôt je coule comme l'eau, je vis de mon tonneau, je m'en sépare. Sur mon chemin de mots, sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que j'en délire. Sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que je ne saurais dire. Les mots sont aussi des bourreaux qui sentent le fagot, parfois le soufre. Les mots me ramènent à zéro quand j'use mon stylo et que j'en souffre. Héros, quand il faudrait plutôt déposer le couteau, devenir tendre. Palo, quand il faut illico, brandir un calicot sans plus attendre. Sur mon chemin de mots, sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que j'en délire. Sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que je ne saurais dire. Les mots sont parfois des bateaux qui s'en vont à volo, sans équipage. Les mots s'abîment dans les flots d'un langage crado, sans une image. Mégots qu'on jette au caniveau, qui se perdent si tôt qu'on les oublie. Îlots d'un monde qui bientôt tirera le rideau sur notre vie. Sur mon chemin de mots, sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que j'en délire. Sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que je ne saurais dire. Sur mon chemin de mots, sur mon chemin de mots, j'en ai vu de si beaux que j'en délire. Sur mon chemin de mots, vous êtes les plus beaux, mais j'ai dû vous le dire.
La solitude. Solitude. Pour vous, cela veut dire seul. Pour moi, qui saura me comprendre ? Cela veut dire vert, verdru, vivace, tendre, vert platane, vert calicante, vert tilleul. Mot vert, silence vert, main verte, de grands arbres penchés, d'arbustes fous, doigts mêlés de rosiers, de lauriers, de bambous, pieds de cèdre âgés où se concertent les bêtes à bon Dieu, ronde, alerte de libellule sur l'eau verte. Dans l'eau, reflet de marronnier, d'ifs bruns, de vimes blonds, de longues menthes et de jeunes cressons. Flaques dormantes et mourant vif au moment des meuniers, ruées rainettes à ressorts et carpes vénérables, Martin pêcheur. En mars, étoiles de prunier, de poirier, de pommier, grappes d'érable. En mai, la fête des ciguës, celle des boutons d'or, splendeur des prés, clochers blancs des yuccas, lances aiguës et tiges douces, chèvrefeuilles aux brins serrés, lignes vierges aux bras lourds et chargés de palmes, et toujours et partout fraîche, luisante, calme, l'invasion du lierre à petits flots lustrés, gagnant le mur des cours, les carreaux des fenêtres, les toits des pavillons vainement retondus. Lierre, nouant au front du chêne, au cou du hêtre, ses bouquets de grains noirs comme un piège tendu à la grive hésitante. Vers royaume des merles en habit, royaume qui s'étend ainsi que dans un parc de Florence ou de Rome, en nappe d'émeraude et de cordages flottants. Lierre de cette allée aux porches de lumière, dont les platanes séculaires, chaque été, font une longue cathédrale lierre verte de la grotte en rocaille où dorment abrités chaque hiver les calas et les cactus fragiles, où ce que la poussière blanche de la ville givre à peine les soirs de très grand vent. Pour moi, vers obligé des vieilles pierres, des arbres vieux, des toits qui penchent, des vieux toits. Un château ? Non, madame, une gentilhommière. Un ermitage vert qui sent les bois, le foin où les bruits de la route arrivent d'assez loin pour n'être plus qu'une musique en demi-teinte. Un train sur le talus se hâte avec des plaintes, mais l'horizon tout rose et mauve qu'il rejoint transpose le voyage en couleur de légende. On regarde un instant vers ces trains qui s'en vont, traînant leur barbe grise, et c'est vrai qu'ils répandent un peu de nostalgie au fil de l'été blond. Mais le jazz des moineaux fait rage dans les feuilles, les pigeons blancs s'exaltent, le cyprès et la tour enchantée où des notes s'effeuillent autour du rossignol. Du pré monte la fièvre des grillons, des sauterelles, toutes les herbes ont des pattes, ont des ailes, et l'âne et le cheval de la fable sont là, et Chanteclair se joue en grand gala, jour et nuit dans la cour où les plumes voltigent. Au clair de l'eau, c'est l'éternel prodige du têtard de velours devenu crapaud d'or, de la voix de cristal parmi les râpes neuves d'innombrables grenouilles. Le chat adore. Diquette, chien, s'affaire, et sur leur tête pleuvent des pastilles de lune ou de soleil brûlant. S'il pleut vraiment, la pluie à plein seau ruisselant s'éparpille de même aux doigts verts qui l'arrêtent. Un tilleul, des bambous, l'abri vert du poète, du vert, comprenez-vous ? Non, pour qu'aux vieilles maisons rien ne blesse les yeux sous les paupières lasses. Douceur de l'arbre, de la mousse, du gazon. Vous dites solitude ? Ah, quand l'heure qui passe, est-il rien de plus vivant qu'un jardin, de plus mystérieux, parfumé de rues tenaces, si peuplé qu'il arrive soudain qu'on y discourt avec mille petits génies, partis on ne sait d'où, comme chez Aladdin. un mot vert. Qui dira la fraîcheur infinie d'un mot couleur de sève et de source et de l'air qui baigne une maison depuis toujours la vôtre? Un mot désert peut-être et desséché pour d'autres, mais pour soi familier, si proche, tendre, vert, comme un îlot, un cher îlot dans l'univers. Voilà, c'était un poème de encore Sabine Sicaud. S-I-C-A-U-D, comme on fait à la télé, on épelle. Merci.
Normalement, c'était merci qu'il disait à la fin, pour ceux qui auraient un doute sur ce que pouvait dire Jean-Marie, pour conclure cette présentation. Allez, troisième volet, Ariel.
Eh bien, encore un petit Patrick Denis. Les moignons torves de la vigne griffent les brouillards du matin. Fumés sur le givre des pentes, on brûle les sarments dans des tonneaux de ferraille éventrée, renversés sur l'affût des brouettes. Le ciel est à la mesure de l'événement, rouge d'incendie. Les chiens libres divaguent parmi les cèpes en jappant de plaisir. La cohorte dévote des vignerons gravit son long pèlerinage. On se prosterne sans compter aux pentes des saintes collines, en priant la dive bouteille. Le jour s'affirme allongé lustre et rosé, quand la doucette exude son chagrin de gratitude. Pénitents noirs, les corbeaux précèdent la procession. Le deuil de l'hiver se porte aux ongles qui se crêpent de terreau noir. L'orgasme des boules se révèle sous la succion des bottes. Les gens du vin pratiquent le saffer sexe. On empanache sa vie des maladies de l'âge qui sont comme des jalons sur une route enneigée. Les enfants grandissent. On s'en perçoit en leur absence. Le curé sera dans l'obligation d'ajouter une église à la palette de ses paroisses. On évoque les anciens qui s'étiolent dans les hospices, comme le tanin dans les fonds de bouteilles, les chasses de faim en fin de semaine, quand les faisans abattus enrobent le cou des hommes de longs bois de plumes. Le Savagnin scintille dans le soleil aux béances des musettes et circule de main en bouche comme le viatique de la foi. L'imminence de gelée inattendue perdure en rumeur. L'inquiétude a gercé de ses pattes d'oie la commission des regards. C'était le temps des « peut-être » que l'on s'entête à déchiffrer aux signes cabalistiques de l'alphabet céleste.
Une chaise vide, un piano fermé, l'artiste a bouclé sa valise. Les caves humides à Saint-Germain-des-Prés marquent nos soirées de balise. Lorsque tu chantais le cou si fragile, accompagné de ta guitare, les cordes vibraient sous tes doigts agiles, au bout de ta chemise noire. Tu n'accosteras plus vraiment de la guitare, t'es du port du salut pour nous chanter le phare.
couler de mots au flanc du bateau ivre. Tu as pris le vent, soir du ver galant, t'es des amoureux, salut géant. Tu vilipendais la bêtise humaine, Zazie réprimait un fou rire. Tu nous baladais aux eaux de Vincennes, dans la société en délire. Fatigué d'animer l'arrière boutique des caves à chansons de misère, t'as donné dans les bouquins érotiques qui pourraient te jeter la pierre. Tu n'accosteras plus Ramon de la guitare, qu'elle lui porte du salut pour nous chanter le phare, pour nous saouler de mots au flanc du bateau ivre. Tu as pris le vent, soir du ver galant, qu'est des amoureux, salut géant. Loin du commerce et des bides à succès, t'as fait des chansons toutes belles. Vol au vent qui berce les grands peupliers, avec l'amour dans ta nacelle. On n'a pas eu le temps, on ne s'est pas connu, la faute à la vie, trouble faite. Pardonne-moi géant, mais la vie, mon cul, comme dirait Zazie, c'est pas chouette. Tu n'accosteras plus Ramon de la guitare, qu'elle lui porte du salut pour nous chanter le phare, pour nous saouler de mots au flanc du bateau ivre. Tu as pris le vent, soir du ver galant, qu'est des amoureux, salut géant, salut géant.
Patrick Denis sur un album sorti en 80. Un album intitulé Le Bateau Ivre, puisqu'il était réalisé avec une partie des artistes qui se produisaient au Bateau Ivre, cette salle de spectacle rue Descartes, du côté de la Mouffe, de la Contrescarpe, si je me souviens bien. Et dans cet album paru en 80, Patrick Denis rendait un hommage à Jean Genas, Jean Genas qui était effectivement une voix incroyable, un auteur d'une causticité énorme, mais qui a eu le malheur effectivement d'attraper dans en 80, c'est-à-dire il n'a pas connu Radio Libertaire, on lui a détecté un cancer du cerveau qui l'a emporté en un mois, si je me souviens bien. Allez, j'ai tellement envie de vous passer du Jean Genas que pour ma part, je passe mon tour et je vous glisse une petite chanson de Jean Genas.
Des réunions le soir près du feu quand du ciel pleurait l'ennui créateur. On sortait l'album de l'orgueil des vieux, trois générations d'art procréateur. L'album de famille. On y voyait Jules, le cousin Benoît, l'oncle Gaëtan qui chasse en Afrique. Mais dans les cousins, les tantes et leurs cliques, je savais déjà que je pataugerais pas. Et si par hasard on venait à demander, tiens, mais je ne vois pas le petit dernier. Ah, celui-là, ben, on ne sait pas. L'album a jauni, tissant en secret des toiles d'araignée dans la barbe du temps. J'ai quitté tout ça, leur gueule m'ennuyait, mais je les imagine feuilletant benoîtement l'album de famille. Voici le grand Jules, le cousin Benoît, l'oncle Gaëtan qui chasse au Kenya. Voici les cousins, les tantes, la Smala. Tiens, y a une place vide, qui sait qui manque là. Et comme par hasard, on vient à demander ce que peut devenir le petit dernier. Ah, celui-là, ben, on ne sait pas. Le ciel suit son cours avec Stéphane, moi je mange pas tous les jours à l'hôtel du vent, c'est que du pissenlit, mais je préfère ça que bouffer les racines dans le plat d'argent. L'album de famille. Où l'on voit le grand Jules, le cousin Benoît, l'oncle Gaëtan qui est mort au Tonkin, les cousins, les tantes en plus ou en moins, et puis la place vide où je ne suis pas. Et si par hasard on vient à demander ce que peut devenir le petit dernier. Ah, celui-là, ben, on ne sait pas. Le ciel m'a souri, un jour de printemps. La fortune c'est sourd, mais ça fait du bruit. Je suis revenu au lieu de mes 15 ans. Avec des sourires, on m'a ressorti l'album de famille. Voici le grand Jules, tiens, mais là c'est moi. L'oncle Gaëtan, tiens, c'est encore moi. Les cousins et moi, et les tantes et moi. Et les cousins et moi, et les tantes et moi. Et les cousins et moi, et les tantes et moi. Les cousins et moi, et les tantes et moi. Les cousins et moi, et les tantes et moi. Les cousins et moi, et les tantes et moi.
En 81, quand a commencé à exister la version que vous connaissez de Radio Libertaire, dans la discothèque fusionnant les collections de Gérard Caramaro, Yves Perrault, les quatre fondateurs de Radio Libertaire, j'oublie Julien, et Floréal qui est toujours là, c'est vrai, il y avait tous les disques de Jean Jonas, ce qui ne faisait guère que 4 ou 5 disques, et imaginez quand même, quand vous étiez auditeur et qu'à l'autre bout de l'antenne, vous découvriez effectivement les chansons de Jean Jonas, ça vous foutait une bonne claque dans la gueule et vous aviez envie de vous précipiter à la librairie du Monde Libertaire pour vous procurer ces disques. Et je me souviens, j'avais même trouvé des disques de Jean Jonas au rayon disques du BHV à l'époque. Mais je préférais les acheter quand même à la librairie du Monde Libertaire. Allez, Harry.
Un petit porcholi. Voilà. Alors, mettre un peu de musique dans cette ville à fou, tu joues à cœur et à pic, si tu t'en fous, c'est le pari de ta vie, c'est un défi que tu fies à la folie. Pourtant, les oiseaux, cette petite bête en toute saison, sifflent des chansons à tue-tête, ils ont raison. Est-ce parce que tu as une cervelle que tu ne pourras pas emprunter leurs petits pas? Si on te cloue le bec, envole-toi. Rien qu'avec ton zèle et tes ailes, tu sauras mettre un peu de musique dans cette ville à fous. Jouer tes cœurs et tes piques à la bataille des doux, à la bataille des doux, à la bataille des doux, à la bataille. Écrit en été 77, il y a un autre tout petit qui suit. Oh, ce petit nuage a craché 3 flocons. Ce petit flocon a fondu en 3 gouttes. Cette petite goutte a séché en 3 secondes. Cette petite seconde a rempli un petit silence. Ce petit silence a duré une éternité. L'éternité donc descend des nuages. Quand viendra l'orage, qu'est-ce que ça va durer ? Hiver 77.
J'ai cherché des chansons un peu comme prière, un peu comme un cantique qui nous relierait tous, un peu comme accolade pour tant de camarades que je ne peux serrer contre moi tout le temps. J'ai cherché des chansons pour ranimer la flamme, non d'un soldat perdu, mais d'un poème à poindre. J'ai cherché des chansons un peu comme une fuite pour bâtir une maison de notes et puis de mots. Une planète idéale où les amours sont reines. J'ai cherché des chansons pour parler avec Dieu sur tout ce qui se passe dans mon espace. J'ai cherché des chansons un peu comme bataille, la guerre des petits contre géants de haine. La haine, elle est en moi, je la combats, je pleure. J'ai cherché des chansons comme une voile immense pour la paix, le voyage, les larmes, un vêtement. J'ai cherché des chansons, c'était thérapeutique. En racontant mes mots, j'ai connu la musique. J'en ai fait au moins 1000, il m'en reste une grappe. C'est ma vigne sacrée, mon territoire d'homme. Ami, si tu y entres, retire tes souliers. Je te trouve aujourd'hui, demain je vais te perdre. Tu es caché dans tout et visible dans rien. La parole des poètes, c'est une courte échelle. Et la terre aux merveilles, c'est un théâtre où il faut retirer de ce feu des marrons qui nourrissent. Sans violence, je veux filer ma longue vie, que ma colère soit juste et ma joie sans écueil. Et si un oiseau chante au-dessus des usines, que ma voix le comprenne, ce choix de ma disance. Oh, que je porte en moi l'espérance et le vrai. J'ai trouvé des chansons parce que ce temps me presse.
Philippe Fortioli, j'ai cherché des chansons. J'avais pas remarqué que dans la chanson, à un moment, il citait Dieu. Alors, pour me faire pardonner des mécréants que nous sommes tous, je vais faire un test avec le lecteur de cassettes de Radio Libertaire pour sortir un truc qui n'existe plus que sur quelques cassettes. À mon avis, il doit y en avoir une chez moi. Il y en a peut-être une chez Pascal Perrault et quelques-unes qui traînent ailleurs avec les contes et mécontes de Guy Perrault, qui était l'un des piliers de cette émission, il y a de cela un certain temps maintenant.
Les crayons, oui. Oh, Cato ne m'en voulait pas. Fais des comptes, mes crayons. Je serais voué aux gémonies et voué à l'enfer, mais tant pis. Voilà. Premier compte, mes crayons. Le jour où Dieu s'interrogea. Bah oui, ce jour-là, Dieu était perplexe, se posait des questions. Il baillait à fendre l'âme, le pauvre papy. Enfin, disons le mot tout net, quoi, Dieu s'emmerdait. D'autre part, on peut très bien être Dieu et s'emmerder en même temps, hein. C'est pas incompatible. Il était là qui baillait, qui bavait, le pauvre Dieu. Alors, il appelle l'ange bibliothécaire qui était de service, il lui dit, écoute, Angelus, bibliocus, je m'emmerde, je voudrais bouquiner. Ah, pertinence. Oui, mais, patron, la dernière fois que vous bouquiniez, ben, c'était Penthouse et Playboy, et vous en étiez à la page des photos gratinées. Et Madame Marie passait derrière à ce moment-là, c'était pas la joie. Pas contente qu'elle était. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, elle est encore derrière. Et en plus, elle est accompagnée de du préfet de police du paradis, là, Monsieur Michel Archange. Oh, oui, dit Dieu. Oh, oui, Michel Archange, j'en suis là. Depuis son combat de catch avec le dragon, il n'y a plus moyen de le tenir. Bon, alors, qu'est-ce que... Bah, pendant qu'ils sont là, écoutez, patron, je vous conseillerais de dire du sérieux. Eh ben alors, ben oui, ben d'accord, mais tu sais, j'ai pas d'idée. Alors dis-moi, mon vieux, dis-moi, t'es bibliothécaire, après tout. Ben alors, patron, moi de vous conseiller les livres sacrés, la Bible, par exemple. Oh, j'ai lu la Bible, écoute, je la connais par cœur, hein. Bien sûr, avec tout ce qu'ils m'ont mis sur le dos, tout ce qu'ils racontent, hein. Ah, hein. Les plaies d'Égypte, les puits de sang, les serpents, les sauterelles criquées qui bouffent tout. Sans compter l'autre illuminé, là, qui, au pied du mont Sinaï, me voit transformé en buisson ardent, enfin. Moi, en buisson ardent, Angélus. Moi, qui ai horreur du feu. Donc, le feu, c'est pas moi que ça concerne. Ces pieds fourchus, le locataire d'en bas. Et s'il y avait que ça, en plus, avec l'histoire de Ève, de la pomme et du serpent, où on me fait passer pour le plus grand misogyne de tous les temps. Ah non, non, alors la Bible, n'a pas question. Alors là, trouve autre chose, mon vieux. Bah, écoutez, patron, alors là, je sais pas, moi... Ah, bah si, dans les livres sacrés, tiens, le Coran. Ah, dit Dieu, le Coran, oui, mais alors là, c'est autre chose. À chaque fois que je lis le Coran, et que le cuisinier du paradis me fait des côtes de porc, figure-toi que le mélange des deux me donne de l'urticaire, et je comprends pas pourquoi. Ah non, non, pas le Coran. Bon, bah alors, patron, alors, livre sacré, donc j'en avais un très sérieux, là. La Bhagavad Gita. Oh, Dieu, la Bhagavad Gita. Oh là 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 là, c'est aigré. Un doux, c'est d'un ardu. Oh, c'est pas décontractant. Hein. Oh non, non. Puis, elle a pensé à tous ces dieux et ces sous-dieux, là, avec leurs bras multiples, qui gigotent dans tous les sens. Rien que d'y penser, ça me donne le vertige. Non, non, pas la Bhagavad Gita. Bah, patron, alors dans les livres sacrés, il reste plus que la Torah. Et Dieu ouvrit la Torah. Et à la première page, il lut. Au commencement des temps, il y avait Yahvé. Bah, comment ça dit Dieu, il y avait Yahvé, il y avait Yahvé. Mais alors, j'aurais bâti le monde sur un pléonasme. Et c'est alors que Dieu, profondément traumatisé, vendit son âme au diable.
Ainsi se termine pour aujourd'hui Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Ariel, on se retrouve quand, l'équipe des liseux de texte? Début septembre, on se retrouve?
Attends, j'ai pas bien compris.
On se retrouve quand, l'équipe des liseux de texte? On se retrouve début septembre avec Elsa et Joël et...
Ah oui, bien sûr, début septembre, il n'y a aucun problème. Voilà. Et le samedi d'après, ce sera avec Laurent. Vu que maintenant, il va faire qu'un seul samedi, mais le deuxième de chaque mois. Voilà.
Et voilà, ainsi se termine pour aujourd'hui Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Nous étions ensemble pendant une heure et demie, ça a permis à votre cœur de pomper à peu près 500 litres de sang, ce qui fait l'équivalent de 2 baignoires. 73 cancers auront été détectés en France, 2 millions d'œufs auront été consommés et une trentaine d'hommes auront relevé leurs pantalons après avoir abusé du corps d'une femme ou d'un enfant.
T'as bien capté, Bulma, sur Libertaire, Radio Libertaire, on va parler de polar. Du Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby.
Ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Libertaire.
T'as bien capté bulle noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de Paula, sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4 heures.
Baby,
faut pas tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté, bulle noire, sur Libertaire,
Radio Libertaire.
On va parler de Paula, sur Libertaire, Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire. Radio Libertaire sur 89.4.
Bulle noire, Radio Libertaire 89.4. Nous sommes avec Louise May qui nous fait le plaisir et la joie d'être avec nous dans les studios de la radio. Son dernier roman, c'est Les Ogres, c'est publié aux éditions Point. Bonjour Louise.
Bonjour.
Bon alors, on aurait dû te recevoir bien avant, il y a très longtemps.
Mais oui, quel scandale.
Bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis vraiment outré. Bon alors, Louise May, née en 1982.
Oui.
À Paris.
Tout à fait. Parisienne de naissance. Ça arrive à des gens bien aussi. Hein.
Bah, je sais bien. J'en sais quelque chose. T'es née dans quel arrondissement? Tu te souviens?
Je suis née à l'Hôtel Dieu, avant que ce soit reconverti en hôtel spa / coworking.
Bah oui, ça grâce à
Macron. Oh non, on n'a pas commencé, on est à 30 secondes d'émission.
Oui, ça va.
Allez,
on va se calmer. Ce qui est assez rigolo en lisant ton parcours, le début de ton parcours. D'abord, tu racontes que la bibliothèque était ouverte chez tes parents. Il y avait beaucoup de bouquins. Alors du coup, quand on se dit qu'il y a pas mal de livres dans une bibliothèque, soit les parents sont profs, universitaires, libraires, ils sont journalistes, ils sont ou amateurs, ou grands amateurs de littérature. C'était quoi la case qu'il fallait cocher concernant tes parents?
C'est un peu un mélange de tout ça. C'était pas prof et c'était pas journaliste, mais effectivement moi, mes parents exerçaient, parce que là ils sont à la retraite tant que ça existe encore, des professions libérales. Et c'est vrai que pour le coup la lecture c'était un truc qui avait toujours été important et qui était surtout comme tu le disais à l'instant vraiment en libre service, c'est-à-dire que il y avait des bouquins à la maison, il y avait des cartes de bibliothèque aussi, parce que les bibliothèques, c'est quand même, je vais juste dire deux mots sur les bibliothèques et les bibliothécaires, parce que moi je suis invitée de plus en plus dans des médiathèques et qui sont vraiment tenues à bout de bras par souvent des femmes qui vraiment luttent pour que ces lieux-là soient encore des lieux d'ouverture et d'échange et d'accueil du public. C'est incroyable le boulot des bibliothécaires. Et puis nous, on était trois gamins, donc on avait trois quarts de bibliothèque, donc on partait de la bibliothèque, on avait 25 BD, 45 documentaires, enfin tu vois, imagine un peu trois gamins avec des piles de bouquins sur les bras. Et puis il y avait aussi cette idée que même si au départ les femmes que j'ai lues c'était des choses un peu, enfin très très orientées petites filles on va dire, typiquement la comtesse de Ségur, il y avait cette idée que c'est pas, enfin même pas que c'était pas parce que t'étais une femme que tu pouvais pas écrire, mais qu'il y avait pas d'impossibilité. C'était même pas formulé cette idée que la littérature n'était pas accessible aux femmes, qu'elle ne pouvait pas être faite par des femmes. Et ça, pour le coup, je pense que ça s'est engrainé très très profond dans mon esprit. Ça n'a jamais été une question, en fait. Ça, c'est de l'ordre du privilège. C'est une chance incroyable.
La jeune Louise,